Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. L'éducation, enjeu majeur du devenir du monde. Voilà le thème de cette émission. Il y a partout le même cri, surtout depuis le début du XXe siècle, la mise en valeur du même enjeu, mais nous restons sourds. D'où cette émission pour nous réveiller, car en ce domaine, nous avons, semble-t-il, perdu conscience. Trois cris parmi tant d'autres venant du monde entier. J'en retiens trois, donc, le premier de Friedman, George Friedman, dans son très beau livre « La puissance et la sagesse », écrit à Cabris, village perché, près de Grasse, et il écrit en 1971 « L'éducation véritable, son succès ou son échec, commande l'avenir de l'homme ». Et il précise « L'éducation véritable, c'est l'homme transformant sa condition par des institutions adéquates, mais aussi grâce à la transformation de soi par soi, c'est l'homme se prenant lui-même en main. » Une deuxième référence, Herbert George Wells, anglais, qui écrit dans son esquisse de l'histoire universelle « L'avenir de l'humanité est une course entre l'éducation et la catastrophe. » Et enfin, Yasmina Kadra, que nous avons reçue dans cette émission et qui écrit « Le seul moyen de lutte qui nous reste vraiment pour refuser l'arbitraire et la barbarie est de ne pas renoncer à notre éducation. » Pour cette émission, un document exceptionnel qui nous vient des États-Unis en première partie et en seconde partie, un entretien inédit réalisé cet après-midi avec Olivier Houdet, qui est professeur des universités à la Sorbonne, chercheur, et qui est présenté à juste titre de plus en plus comme le Piaget du XXIe siècle. Nous en reparlerons dans la deuxième partie. Mais avant, si vous voulez bien, cinq idées forces qui conduisent cette émission. La première, il y a confusion entre instruction, enseignement d'un côté, et éducation. Or, il convient de bien discerner. C'est une erreur que font beaucoup d'auteurs, presque la majorité des auteurs. Deuxième idée force, un nouvel esprit éducatif surgit, conforté par des recherches solides en neurosciences et dans d'autres domaines, mais ce nouvel esprit éducatif peine à s'incarner, car il nous dérange tous. Il a par ailleurs de profondes conséquences sur l'enseignement. Troisième idée force, si l'école enseigne avec certes une certaine pédagogie plus ou moins pertinente, un esprit éducatif plus ou moins pertinent, rappelons-le avec force, les parents ont en éducation un rôle irremplaçable. Quatrième idée force, il n'y a éducation que par auto-éducation et co-éducation. Bachelard disait « qui enseigne doit être enseigné, eh bien qui éduque doit être éduqué ». Enfin, dernière idée, pour tous, école, université, parents, instances, se posent cette question fondamentale, mais comment apprend-on ? Pas d'apprentissage tout au long de la vie si on ne trouve pas une réponse pertinente à cette question. Comment apprend-on ? Non seulement à l'école, mais aussi en éducation et tout au long de la vie. Commençons, si vous voulez bien, par écouter ce document qui nous vient des États-Unis. Ken Robinson intitule ce document « Comment échapper à la vallée de la mort de l'éducation ». Selon moi, il ne discerne pas lui aussi assez éducation d'une part et enseignement-instruction d'autre part, mais encore une fois, c'est une erreur très constante chez beaucoup d'auteurs. Écoutons ce document traduit en français.
Every country on earth at the moment.
En ce moment, dans tous les pays, on réforme l'enseignement public. À cela, deux raisons. La première est économique. Comment instruire nos enfants pour qu'ils trouvent leur place dans l'économie du XXIe siècle ? Comment s'y prendre ? Et ce, alors même que nous sommes incapables de prévoir à quoi ressemblera l'économie la semaine prochaine, comme l'a démontré la crise récente. Comment faire, donc ? Quant à la seconde raison, elle est culturelle. Tous les pays du monde se demandent comment éduquer nos enfants pour qu'ils acquièrent une certaine identité culturelle, pour leur transmettre les gènes culturels de nos communautés, tout en participant à la mondialisation. C'est la quadrature du cercle. Le problème, c'est que ces gens comptent affronter l'avenir en appliquant les méthodes du passé. Et ce faisant, ils laissent sur le bas-côté des millions d'enfants qui ne voient pas l'intérêt d'aller à l'école. Nous, quand nous y allions, nous étions motivés par un principe. Si on travaillait dur, qu'on obtenait de bons résultats et qu'on décrochait un diplôme, on était sûr d'avoir du travail. Nos enfants n'y croient plus, et ils ont bien raison. Certes, mieux vaut avoir un diplôme, mais ce n'est plus une garantie d'emploi. Surtout si pour l'obtenir, on refoule tout ce qui nous était cher. On entend parfois dire qu'il faudrait remonter le niveau, que cela permettrait de progresser. Eh bien oui, d'accord, ce serait bien. Qui prendrait l'inverse? Aucun argument n'a réussi à me convaincre qu'il faudrait le baisser. Le problème, c'est que le système d'éducation actuel a été fondé, conçu et organisé à une autre époque. Il repose sur la culture intellectuelle du siècle des Lumières et sur la conjoncture économique de la révolution industrielle. Avant le milieu du 19e siècle, l'enseignement public n'existait pas. Enfin, on pouvait quand même être instruit par les jésuites si on en avait les moyens. Mais l'enseignement public, financé par les impôts, obligatoire et gratuit, c'était une idée révolutionnaire. Beaucoup de gens s'y sont même opposés. Selon eux, il était inconcevable que les gosses des rues, les enfants d'ouvriers, profitent de l'enseignement public. Ils sont incapables d'apprendre à lire et à écrire. Ne perdons pas notre temps. Cette idée s'ajouta à toute une série d'hypothèses sur l'organisation sociale. Fondée sur les nécessités économiques de l'époque, elle fut renforcée par une conception intellectuelle de l'esprit, issue en grande partie de la notion d'intelligence selon les Lumières. Être véritablement intelligent, c'était raisonner selon une logique déductive et maîtriser les humanités, comme on disait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences intellectuelles. Cette notion est gravée dans le marbre de l'enseignement public. On classe les gens dans deux catégories, scolaires et non scolaires, intelligents et non intelligents. Résultat, de nombreuses personnes très douées sont persuadées d'être bêtes, car elles ont été évaluées selon cette seule conception. L'édifice repose donc sur deux piliers, économique et intellectuel. J'estime que ce modèle a bouleversé la vie de beaucoup de gens, parfois dans le bon sens. Quelques-uns en ont tiré un grand bénéfice, mais pas les autres. Ceux-là sont frappés par une épidémie contemporaine, à la fois intempestive et imaginaire, le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Voici une carte des cas de TDAH aux États-Unis, ou plutôt des diagnostics de TDAH. Ne nous méprenons pas, je ne nie pas l'existence du TDAH. Je ne suis pas compétent pour affirmer une chose pareille. La grande majorité des psychologues et des pédiatres affirment que cela existe, je le sais, même si le débat reste ouvert. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il ne s'agit pas d'une épidémie. On prescrit des médicaments à ces enfants avec la même légèreté que quand on ordonnait l'opération des amygdales, selon une même base absurde, la mode médicale. Nos enfants vivent l'époque la plus stimulante de l'histoire de l'humanité. Ils sont submergés d'informations, leur attention est captée par tous les supports. Ordinateurs, iPhones, publicités, chaînes de télévision par centaines. Et nous, on leur reproche de ne pas se concentrer. Sur quoi ? Sur des sujets barbants, à l'école principalement. Selon moi, ce n'est pas un hasard si le TDAH se développe selon la même courbe que les tests de connaissances. Et on prescrit à ces enfants de la Ritaline, de l'Adderol et toutes sortes de médicaments, certains étant très dangereux, pour qu'ils se concentrent et se calment. Mais, selon cette carte, le trouble de l'attention est plus répandu à l'est du pays. Les gens sont un peu plus distraits dans l'Oklahoma. Ils n'arrivent pas à réfléchir dans l'Arkansas, et à Washington, ils ont perdu la tête. Mais là, les causes sont probablement différentes. Cette épidémie est fictive. Si on y pense, les arts, et pas seulement les arts, je crois que c'est aussi le cas de la science et des maths, mais je me centre sur les arts parce qu'ils sont très atteints. Les arts sont aujourd'hui les victimes de cette mentalité, tout particulièrement. Les arts développent l'idée de l'expérience esthétique. Une expérience esthétique, c'est le moment où vos sens fonctionnent pleinement, quand vous occupez l'instant présent, quand ce que vous êtes en train d'accomplir vous fait vibrer. quand vous êtes pleinement éveillé. L'anesthésie, c'est l'extinction de vos sens, l'inertie face à ce qui vous entoure. C'est d'ailleurs l'effet de certains de ces médicaments. Nous adaptons nos enfants à l'instruction en les anesthésiant, alors que nous devrions faire le contraire. Nous ne devrions pas les endormir, mais les éveiller, révéler ce qu'il y a en eux. Mais voici notre idéal. Il me semble que notre système d'éducation répond aux intérêts de l'industrie, qu'il est à son image. En voici quelques exemples. Les écoles sont calquées sur les usines. On y sonne la cloche, les salles sont séparées, on enseigne les matières isolément. Nous instruisons toujours les enfants par classe. Je veux dire, on les soumet à un système organisé selon l'âge. Pourquoi ? Pourquoi croyons-nous que le principal dénominateur commun des enfants est leur âge ? Comme si leur caractéristique principale était leur date de fabrication. Pour ma part, je connais des enfants qui, dans certaines matières, sont bien meilleurs que leurs copains du même âge, ou qui travaillent mieux à certaines heures, ou en petits groupes plutôt qu'en classe complète, ou encore qui veulent rester seuls. Quand on se penche sur la pédagogie, on n'adopte pas d'emblée cette conception issue du productivisme. Mais la conformité règne. C'est de plus en plus vrai, surtout quand on constate la standardisation des tests de connaissances et des programmes scolaires, leur normalisation. À mon avis, nous devrions aller dans l'autre sens. C'est ce que j'appelle modifier le paradigme. Une grande étude a été menée sur la pensée divergente il y a 2 ou 3 ans. La pensée divergente n'est pas la même chose que la créativité. Pour moi, la créativité, c'est la capacité à avoir des idées originales qui ont de la valeur. Sans en être synonyme, la pensée divergente est essentielle pour la créativité. Il s'agit de l'aptitude à formuler un grand nombre de réponses à une question, à considérer cette question sous plusieurs angles, ce qu'Edouard de Bono appelait la pensée latérale, à penser autrement que selon des voies linéaires ou convergentes, à concevoir plusieurs réponses et non une seule. J'ai donc conçu un test à ce sujet. On peut demander aux gens « Combien d'usages pourriez-vous faire d'un trombone ?» Ils posent alors des questions de routine, puis la plupart proposent 10 ou 15 réponses. Certains sont assez forts pour en imaginer 200. Pour en arriver là, ils s'interrogent « Et si le trombone mesurait 60 mètres de haut ? S'il était en caoutchouc mousse ? Est-ce que l'on doit s'en tenir au trombone tel qu'on le connaît, Jim ?» Le test fonctionne ainsi. C'est exposé dans un livre intitulé Breakpoint and Beyond, le point de rupture et au-delà. 1500 personnes ont été étudiées. Selon le protocole de l'expérience, celles qui dépassaient un certain niveau étaient considérées comme des génies de la pensée divergente. J'ai une question pour vous. Quel pourcentage des 1500 sujets ont atteint le niveau du génie ? Un dernier détail, c'était des enfants de maternelle. Qu'est-ce que vous diriez ? Combien étaient des génies ? 80% ? Ok ? Il y en avait 98%. Il faut le savoir, l'étude portait sur le long terme. Les mêmes enfants ont donc été testés une seconde fois 5 ans plus tard, vers 8 ou 10 ans. Et là, à votre avis ? La moitié moins, 30%. Nouveau test 5 ans plus tard, à 13 ou 15 ans, 12%. Vous avez compris la tendance, n'est-ce pas ? Cela nous fournit une donnée intéressante. En effet, on aurait pu supposer que l'évolution se ferait en sens inverse, non ? On commence par être très bon, puis on devient meilleur à mesure qu'on grandit. Ça montre 2 choses. Primo, nous avons tous cette capacité, et secondo, elle se dissipe en grande partie. Certes, il est arrivé des choses à ces enfants, tandis qu'ils grandissaient, plein de choses. Mais l'une des plus importantes, j'en suis convaincu, c'est qu'ils ont été éduqués. Ils ont passé 10 ans à l'école, où on leur a répété, il n'y a qu'une réponse, elle est écrite derrière, mais ne tourne pas la page. Et ne copie pas, c'est de la triche. Hors de l'école, on appelle ça de la coopération. Mais à l'école, alors là, ce n'est pas l'effet de la volonté des professeurs, c'est comme ça, c'est tout. C'est gravé dans le marbre de l'éducation. Or, nous devons envisager autrement les capacités humaines, dépasser cette vieille scission entre compétences intellectuelles et non intellectuelles. Ce n'est qu'une abstraction, une théorie, un mode de sélection. Regardons enfin les choses en face, tout ça, c'est un mythe. Ensuite, nous devons reconnaître que la plupart des acquisitions de base se font en groupe, que la coopération alimente le développement. Si nous atomisons les gens, si nous les séparons et si nous les jugeons individuellement, nous les séparons de leur environnement éducatif naturel. Enfin, tout repose sur la culture de nos institutions, sur leurs habitudes autant que sur le milieu dans lequel elles fonctionnent.
Dans un document écrit qui accompagne cette conférence, l'auteur fait un constat, met en valeur trois éléments et par ailleurs trois conditions de réussite. Le constat, il note qu'en Amérique, dans certains coins du pays, 60% des enfants abandonnent le lycée. Et dans les communautés amérindiennes, c'est 80% des enfants. Il a calculé l'économie qu'on pourrait faire, c'est assez impressionnant. Mais rappelons ce chiffre pour la France. Deux tiers des actifs de 18 à 35 ans ont connu des difficultés importantes pendant leur scolarité et seuls 20% ont bénéficié d'un accompagnement. Quels sont les trois principes qu'il met en avant ? Le premier, c'est que les êtres humains sont naturellement différents et divers. Le deuxième principe, c'est que, en l'occurrence, la base de l'épanouissement de la vie humaine, c'est la curiosité. Et le troisième principe, c'est que la vie humaine est intrinsèquement créative. Et pour arriver à améliorer le système, car il constate que les systèmes performants mettent en valeur certains éléments forts, comme individualiser l'enseignement et l'apprentissage, attribuer un statut élevé à la profession d'enseignant et déléguer des responsabilités au niveau de l'école, et non pas sur des programmes macro du pays et très vastes. Et il conclut par cette anecdote, il dit qu'il habite proche d'un lieu qui s'appelle la Vallée de la Mort, et que la Vallée de la Mort est particulièrement aride et s'assèche en permanence. Sauf en 2004, il a plu, et l'année suivante, eh bien, des fleurs ont repoussé cela et là. Conclusion, la Vallée de la Mort de l'éducation n'est pas morte totalement, il faudrait refonder les bases, elle est en sommeil, mais faisons attention, cela risque, si cela dure, d'être grave et pour très longtemps, car une pluie, une année ne suffirait pas. Sous une autre forme, même une réforme profonde ne suffirait plus. Voilà ce que nous dit cet auteur, et écoutons cette musique d'un film que vous connaissez sans aucun doute, et nous allons ainsi rendre hommage à son acteur principal qui nous a quittés il y a quelque temps. Voilà, chers auditeurs, pas d'enseignement, pas d'éducation si on ne résout pas cette question, mais comment apprend-on ? Nous allons accueillir dans un instant Olivier Houdet. L'enregistrement a été fait cet après-midi. Olivier Houdet est né en 1963 à Bruxelles. Il a d'abord été instituteur et maintenant il est universitaire à la Sorbonne, plus précisément à Paris 5. Il est directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut universitaire de France, et il vient de publier un petit livre aux éditions Le Pommier, « Apprendre à résister ». Le sous-titre est « Après Piaget, une théorie révolutionnaire pour décrire l'apprentissage ». J'ai lu et relu ce livre, je vous l'assure, il est très lisible et il est fait pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, entre 7 ans et 107 ans. Il élabore dans ce livre, et avant dans ses autres écrits et dans les écrits qui vont suivre, une nouvelle conception et passionnante pour décrire l'apprentissage. Il met en valeur en particulier la résistance cognitive. Et au fur et à mesure de ses travaux, il nous montre comment la mettre en œuvre pour améliorer l'apprentissage, encore une fois, à tous les âges. Ce psychologue recourt à l'informatique, aux sciences cognitives et à l'imagerie cérébrale. Ce rapport conduit de plus en plus d'experts à dire, et selon moi à juste titre, qu'il est le Piaget du XXIe siècle. Après avoir de façon approfondie analysé l'apport de Piaget, il prolonge, complète, et sait aussi marquer ses désaccords. Homme de terrain, instituteur, puis maintenant chercheur, mais n'oublions pas sa première fonction, Olivier, je vous le confie, est une valeur sûre dans ce domaine fondamental de l'apprentissage. Ses perspectives tout au long de la vie, et donc tous les âges, sont soucis de traiter la complexité en alliant travaux en laboratoire pratiques sur le terrain, avec une approche pluridisciplinaire, indique pour le présent et l'avenir des contributions majeures et je dirais incontournables. Oui, cet homme de terrain, maintenant chercheur de renom international, est incontournable pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge et quelle que soit notre fonction, y compris l'entreprise, y compris le syndicat, y compris les parents, y compris les enseignants et l'enseignant, y compris les gens en retraite. Comment apprend-on ? Écoutons Olivier. Alors Olivier, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup Olivier de participer à cette émission, parce que je sais qu'un chercheur a un emploi du temps extrêmement chargé et en plus il doit écrire, être présent au cœur des médias, des formations, c'est énorme et je crois que les gens ne se rendent pas toujours compte de l'effort extraordinaire que vous avez dû faire pour écrire ce livre qui est très lisible et tout à fait remarquable. Alors Olivier, pouvez-vous nous présenter vous-même votre livre ?
Résister évoque la notion de résistance qu'on connaît au sens politique, hein, par exemple pendant la dernière guerre mondiale, Moulin, De Gaulle, etc. Ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est qu'il y a aussi à l'intérieur de nos cerveaux, chez l'enfant comme chez l'adulte, des compétitions, des guerres entre réseaux de neurones qui créent des difficultés que notre cerveau doit résoudre. Et nous avons à l'avant du cerveau un cortex préfrontal qui a cette fonction d'arbitrage entre stratégie et qui permet d'inhiber nos automatismes de pensée, nos impulsions. Et c'est cela que j'appelle la résistance cognitive, mais c'est une résistance tournée vers soi. En quelque sorte, réfléchir, c'est parfois penser contre soi pour créer.
Alors, vous nous présentez votre livre en 6 points. Précisez justement ces 6 points sur lesquels vous apportez votre contribution de recherche depuis des années, j'imagine.
Alors, il y a une structure de livre, c'est finalement l'architecture cognitive en construction dans le développement de l'enfant. Et il y a dans cette architecture cognitive 4 principes fondamentaux, l'objet, sa permanence et son unité. Et lorsque le cerveau du bébé a élaboré l'objet, sa représentation du monde, les opérations qu'il fait sur le monde qui l'entoure, opérations mentales, peuvent relever de 2 ordres, soit quantitatif, quantifier le nombre d'objets, ce qui conduira par l'école, la culture, aux mathématiques, soit qualitatif, la forme, la couleur, la fonction, c'est la catégorisation, le quantitatif étant le nombre, et avec nombre et catégorisation, on va arriver d'une part aux mathématiques et d'autre part aux taxonomies pour la catégorisation. Et pendant assez longtemps, au cours du développement de l'enfant, ces traitements quantitatifs, nombre et ou qualitatif, catégorisation, portent sur des objets concrets. Il y a un moment donné, le cerveau sera capable de faire porter ces traitements sur des idées, des hypothèses, des propositions logiques, et c'est le raisonnement. Et donc mon livre est organisé, vous l'aurez remarqué, en chapitres successifs qui, là, s'appellent « Résister pour retrouver des objets ». Naissance de l'intelligence, premier acte de résistance. Ensuite, résister pour dénombrer, proto-mathématique, deuxième acte de résistance. Résister pour catégoriser, proto-logique et taxinomie, sur tous les fronts de la logique, parce qu'il y a de multiples stratégies auxquelles il faut résister, multiples automatismes inhibés. Et enfin, résister pour raisonner, qui vaut aussi pour le jeune adulte, comme cela vaut pour l'adolescent, et où je décris les différents systèmes de raisonnement qui entrent en compétition. Il y a toujours dans notre cerveau adulte, et vos écouteurs, vos auditeurs notamment, des choses à inhiber, des stratégies trop impulsives, des automatismes, et ce sont nos ultimes actes de résistance, mais qui habitent notre vie quotidienne. Et enfin, le dernier point, redéfinir le progrès cognitif. À travers cela, ça amène à ne plus concevoir le développement seulement en stade comme Piaget, avec à chaque fois un seul mode de pensée, mais nous avons à tout moment du développement plusieurs modes de pensée, plusieurs stratégies qui entrent en compétition. Il faut apprendre à inhiber l'une pour activer l'autre, ce qui fait que ça nous conduit à redéfinir le progrès cognitif, que je décris plutôt comme, notamment en me référant à Michel Serres, comme un paysage de montagne plutôt qu'un escalier par stade, comme le décrivait Piaget. Ça amène aussi à comprendre prend des décisions absurdes, la démocratie des crédules, même la question de survie. Ce qui fait le cinquième point que vous évoquiez, le sixième, c'était le tout premier, l'introduction sur la résistance cognitive, où je fais le parallèle, nouveau je crois, entre les réseaux de neurones et les réseaux de la résistance politique. Et dans les deux cas, il y a un élan humain essentiel qui consiste à apprendre à ne pas céder à la facilité, et cela vaut aussi pour nos réseaux de neurones et pour notre façon de penser. Et donc l'école a un rôle essentiel à jouer pour apprendre à résister.
Alors justement, ce qui est tout à fait intéressant en apportant cet éclairage sur la résistance cognitive, c'est que vous renouvelez aussi la lecture de la résistance tout court, citoyenne, politique, etc.
Oui, c'est-à-dire qu'on a trop longtemps considéré que c'était seulement un phénomène sociopolitique, donc en quelque sorte résister à des ennemis extérieurs à nous. Et en fait, je pense que le premier ennemi est intérieur, que tous les actes, qu'il s'agisse d'erreurs cognitives, voire des actes plus graves ou violents à l'égard de la société, relèvent toujours d'un dérèglement du raisonnement, d'un dérèglement de la pensée, et que cette résistance à ses propres automatismes vaut pour l'apprentissage de la lecture, pour l'apprentissage des mathématiques, nous l'avons montré, pour l'apprentissage du raisonnement, mais vaut aussi pour les rapports sociaux.
Précisez-nous, Olivier, en dehors de cette question des marches qui caractériseraient, selon Piaget, notre évolution, alors que vous prenez une position totalement différente, plus globalement, où se situent les différences et les apports que vous faites par rapport à Piaget ?
Alors d'abord, Piaget est mon maître hein, dans notre domaine. C'est le laboratoire dont je vous parle, je suis à la Sorbonne, dans le lieu historique du premier laboratoire français de psychologie scientifique, qui aujourd'hui est le laboratoire que je dirige, un laboratoire du CNRS, s'appelle Psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Et donc, Piaget est la référence historique. Mais il est normal qu'avec les nouvelles recherches, les nouvelles découvertes, les technologies comme l'imagerie cérébrale, anatomique et fonctionnelle, nous ayons révisé son modèle. Et aujourd'hui, on a un modèle, je dirais, plus complexe du développement. La grande différence, c'est que Piaget avait une vision, comme je l'évoquais il y a quelques instants, linéaire et cumulative du développement cognitif. Quatre stades, sensorimoteur chez le bébé, préopératoire chez l'enfant préscolaire, donc l'école maternelle, où il a encore des intuitions perceptives, visuelles, spatiales qui dominent sa pensée, et non des concepts logiques qui arriveront vers 6-7 ans, hein, qui était l'âge de raison des philosophes. Stade opératoire concret d'abord jusqu'à 11-12 ans, et ensuite formel, quatrième stade, où selon Piaget, l'adolescent était définitivement logique, comme doit l'être l'adulte. Donc nous, toutes les découvertes que l'on a faites depuis 20 ans, d'abord au niveau des observations comportementales, correspondent à des décalages par rapport à cette logique très linéaire d'une seule et unique pensée logico-mathématique qui se développerait par stade. Beaucoup de décalages, c'est-à-dire des différences entre les enfants et aussi chez un même enfant, beaucoup de différences selon la situation, le problème auquel ils sont confrontés. Et là où on croyait qu'ils avaient un stade de type piagétien, quelques jours ou quelques mois après, ils faisaient une erreur qui correspondait aux compétences du stade précédent. Et donc, Piaget avait un peu entrevu cela, il avait appelé cela les décalages horizontaux. Au même âge, on peut réussir dans un domaine qui relève d'un stade et pas dans un autre. Ensuite, il a décrit des décalages verticaux parce que les chercheurs y présentaient des décalages de plusieurs années dans les performances qui étaient attendues. Et au final, moi, ce que j'ai dit en quelque sorte dans le que sais-je, la psychologie de l'enfant, j'ai repris le que sais-je de Piaget, tout en rendant hommage à sa théorie, c'est de dire qu'une théorie structuraliste de stade du développement qui prévoit des décalages horizontaux et verticaux peut tout expliquer, n'a donc plus une valeur de théorie sérieuse. Donc il fallait trouver une nouvelle conception du développement, ce que nous avons mis au point, et qu'on appelle un système dynamique non linéaire. C'est-à-dire qu'à tout âge, chez le bébé comme chez l'adulte, vous avez plusieurs stratégies ou modes de pensée, on pourrait dire des formes d'intelligence, susceptibles d'entrer en compétition tout en se construisant, et que finalement la grande difficulté pour l'enfant à l'école, comme dans la vie en général et chez lui, est de choisir au bon moment le bon mode de pensée, la bonne stratégie. Et que donc le développement de cette inhibition que j'appelle positive, est capable d'inhiber une intuition pour activer une réponse logique par exemple, est une adaptation qui caractérise l'ensemble du développement. On le trouve pour la recherche d'objets disparus chez le bébé, pour la construction du nombre et de la catégorisation chez l'enfant, et encore pour le raisonnement chez l'adolescent et chez l'adulte. Ce qui fait que cela permet d'expliquer les compétences très précoces des bébés, qui ont déjà des algorithmes, par exemple dans le domaine mathématique, beaucoup plus évolués qu'on imagine. machines, mais ça n'empêche pas qu'ils se tromperont plusieurs années plus tard dans un test de type piagétien de conservation du nombre, où le nombre entre en compétition avec la longueur. Piaget disait, l'enfant n'a pas encore le nombre, il est au stade préopératoire. On sait aujourd'hui qu'il a déjà toutes les compétences numériques nécessaires pour réussir la tâche de Piaget, mais que son cortex préfrontal, que j'évoquais en début d'entretien, n'est pas encore assez développé, mature, pour qu'il puisse résister à l'intuition perceptive selon laquelle, en général, la longueur est égale au nombre. Et c'est pas une question de stade, ça reste vrai pour nous adultes très souvent, pour évaluer, par exemple, dans un supermarché, si elle, pour même type de produit, des alignements différents, on infère qu'il en reste plus là où l'alignement est le plus long. Donc c'est ce qu'on appelle une heuristique, une stratégie très efficace qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Et la difficulté, on l'a démontré tant en données comportementales qu'en imagerie cérébrale, de l'enfant jusqu'à 7-8 ans, n'est pas de compter, il est capable de le faire, si on lui présente deux alignements de jetons plus ou moins écartés, comme le faisait Piaget, mais d'inhiber cette heuristique longueur égale nombre qui marche partout ailleurs dans son environnement perceptif, mais qui correspond à l'erreur dans la tâche de Piaget, et pour appliquer son algorithme de comptage, pour l'activer, un algorithme déjà présent dans le cerveau du jeune enfant, il doit apprendre à inhiber l'automatisme, l'heuristique, longueur égale nombre qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Et cet exemple que je vous donne pour le nombre, brique de base de la construction des mathématiques, vaut déjà pour la recherche d'objets disparus chez les bébés, où ce sont des défauts d'inhibition, d'automatisme, de recherche des objets là où ils se trouvent habituellement, vaut pour la catégorisation et l'inclusion des classes chez les enfants d'âge préscolaire et scolaire, et vaut encore pour le raisonnement entre un grand psychologue, Daniel Kahneman, seul psychologue lauréat du prix Nobel d'économie, vivant actuellement, Daniel Kahneman a eu son prix Nobel pour montrer l'inverse, avoir montré l'inverse de ce qu'a découvert Piaget, à savoir que les adolescents et les adultes sont très souvent irrationnels, présentent des biais cognitifs, sémantiques, il y a des stéréotypes sociaux, de raisonnement de façon systématique, ce qui a beaucoup intéressé les économistes, qui ne sont finalement pas des agents rationnels comme on le croyait, pourquoi Kahneman a eu son prix Nobel dans ce domaine, et qui est le descriptif exactement inverse de la théorie de Piaget, et en même temps le descriptif inverse de tout ce que découvraient les sciences cognitives, à savoir que les bébés ont beaucoup plus de compétences cognitives que n'imaginait Piaget. Donc il a fallu inventer une théorie qui permette à la fois de rendre compte des compétences précoces des bébés, des incompétences tardives dans le raisonnement, par exemple, des adolescents et des adultes, avec un mécanisme commun. Et cette idée de système dynamique non linéaire, où à tout moment des heuristiques et des algorithmes entrent en compétition, et que l'intelligence en développement consiste à apprendre à inhiber les uns pour activer les autres, et permet donc d'expliquer différents décalages. L'enfant peut avoir une réussite précoce en nombre, en catégorisation, et plus tard être incapable d'inhiber un automatisme qui vient court-circuiter cet algorithme dans le même domaine. Et c'est utile sans doute pour concevoir autrement la science des apprentissages.
Olivier, finalement, votre contribution, votre théorisation concerne l'éducation tout au long de la vie et tous les âges.
Oui, c'est pourquoi vous avez remarqué dans le livre que le dernier chapitre porte en effet sur l'adolescent et l'adulte. Et finalement, j'ai été interrogé par le magazine Les Échos il y a quelques mois, qui a fait un numéro spécial sur les domaines ou les personnalités qui représentent l'actualité en France. Ils m'avaient sélectionné ces recherches et ils étaient énormément intéressés par les applications de cela dans le domaine du travail, de l'entreprise et de la formation. Et en effet, dans le cadre des entreprises, par défaut d'inhibition d'automatisme, de raisonnement, par exemple, on peut prendre des décisions absurdes, individuellement, mais collectivement. Et dans ces cas-là, le groupe n'aide pas nécessairement. Il pourrait le faire, mais il faut repenser la complexité du fonctionnement du cerveau autrement. Et donc, il y a un impact, je pense, en effet, tout au long de la vie. Et on parle beaucoup de stéréotypes actuellement. Les stéréotypes, et je le décris dans le dernier chapitre, font partie de certains automatismes de raisonnement qui peuvent induire en erreur. Et donc, cet apprentissage à la résistance cognitive chez l'enfant permet non seulement, ainsi que nous le démontrons, de lever certaines erreurs de lecture, de calcul, de catégorisation, de raisonnement en classe, mais ça vaut pour la vie. Parce que si notre cerveau et notre développement est dynamique et non linéaire, ça veut dire que on n'est pas garanti en atteint l'adolescence et l'âge adulte de raisonner de façon logique. C'est même plutôt le contraire.
Merci Olivier. Votre prochain livre ?
Je vous en prie. Mon prochain livre, il est en cours d'écriture et je prends précisément la semaine qui vient pour écrire l'une des parties. C'est une commande faite par les presses universitaires de France, d'un que sais-je, sur l'histoire de la psychologie. Alors c'est un vaste travail puisque c'est l'histoire de ma discipline et je ne peux pas concevoir cette histoire qui commencerait avec l'institutionnalisation de la psychologie à la fin du 19e siècle. J'ai souhaité la commencer dès l'Antiquité parce qu'évidemment, sous un certain angle, Platon, Aristote, Galien et bien d'autres ont construit les racines de la psychologie actuelle, tant du côté du cerveau que du côté de la pensée, de ce qu'on appelait l'âme à cette époque-là. Et j'en suis là dans les jours qui viennent à l'écriture de la partie concernant le Moyen-Âge, où par exemple avec Saint-Augustin, Thomas d'Aquin, la psychologie a pris un angle théologique et la question de raisonnement restait très, très profonde. Et d'ici l'été, j'aurai terminé la Renaissance, l'époque moderne et la moitié du XXe siècle, et donc apparaître en janvier 2016 l'histoire de la psychologie en ESSEC.
Merci Olivier. Je rappelle Olivier Houdet, Apprendre à résister, aux éditions Le Pommier. Le sous-titre est tout à fait fondé. Après Piaget, voici une théorie révolutionnaire pour décrire l'apprentissage. Merci beaucoup Olivier.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Cet enregistrement téléphonique est de qualité moyenne. Nos excuses. De plus, il exige une forte concentration car il est particulièrement dense. Mais j'insiste, réécoutez-le, lisez l'ouvrage de l'auteur, discutez-en à deux et vous verrez alors arriver la compréhension. Je vous le redis, Olivier Houdet, ancien instituteur, chercheur de renom, est un auteur à suivre. Plus, il est incontournable pour une éducation tout au long de la vie, pour une autre école, pour une autre université. Plus encore, pour penser, pour décider, pour agir, pour chacun au cœur du quotidien. À la page 81 de son livre, il parle par exemple du livre de Christian Morel, Les décisions absurdes, paru en 2012. Mais nous pouvons aussi ajouter l'ouvrage de Maya Bonvalet sur les stratégies absurdes. Après cet entretien, lors de l'échange qui a suivi entre Olivier et moi, je lui ai confié les commentaires suivants. Je vous les fais partager. Ayant connu Henri Laborie et estimant profondément ce chercheur si humain, j'ai redit cette dernière phrase du film « Mon oncle d'Amérique ». Tant qu'on n'aura pas diffusé très largement, à travers les hommes de cette planète, la façon dont fonctionne leur cerveau, dont ils l'utilisent, et tant que l'on n'aura pas dit que jusqu'ici, cela a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances pour qu'il y ait quoi que ce soit qui change. Plus que des groupes de formation action, il me semble que la visée est de concevoir et d'éduquer des praticiens-chercheurs. Le statut d'erreur cognitive est fondamental, je pense. Sur ce thème, voir le remarquable dossier sur l'erreur sur le site École Changer de Cap. De plus, il y a cette belle citation de Tagore « Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera dehors. » Subtile convergence entre le poète, le littéraire et le chercheur recourant aux neurosciences. Votre approche pédagogie, sciences des apprentissages et la médecine me semble très pertinent et malheureusement peu utilisé en éducation. Votre ouvrage est structuré autour de 6 entrées. Résister pour. J'en ajouterai volontiers une 7e. Résister pour exister et vivre ensemble. La notion de résistance, pour vous plus précisément de résistance cognitive, est selon moi magnifique. Quelle intense et joyeuse perspective. Car selon un ouvrage de Florence Aubenas et de Miguel Benassayag, résister c'est créer. Oui, c'est aussi se créer et créer le monde. Comme le Piaget du XXIe siècle, vos apports seront de plus en plus incontournables. Mais ne vous concentrez pas sur l'école, je vous invite à vous centrer sur le nouvel esprit éducatif et donc sur chacun. Pour cela, tout en poursuivant vos travaux sur apprendre, vous serez conduit à intégrer les dimensions d'anthropologie, de sociologie, de biologie et tout ce qui contribue à refonder et l'éducation et l'école, y compris l'université, sans oublier le poète et les utopistes. Et aussi sans oublier de bien discerner éducation et enseignement. Oui, Olivier nous invite au-delà de son approche scientifique à regarder avec nos yeux, de penser avec notre tête, à devenir le philosophe de notre existence. Je vais terminer, chers auditeurs, cette émission par des références que vous retrouverez dans la note de synthèse. Je vous invite à aller sur le site http://www.reliéart au pluriel culture au pluriel éducation au singulier.com/. Vous ne serez pas déçus par la note de synthèse et par la réécoute de l'émission. Bonne chance, bon courage et à très bientôt.